Jean-Louis Margolin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'Asie orientale contemporaine, enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Un sondage à la sortie des urnes donne en tête la formation d'opposition peut-être de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Bon, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, ces premiers sondages sortis des urnes. Mais est-ce qu'a priori, ça vous surprend, cette avancée, en tout cas cette avance du parti de l'ancien Premier ministre?
Non, aucunement. C'est plutôt le contraire qui serait surprenant, puisque il faut rappeler quand même que cette formation Petai, enfin qui succède à peu importe à d'autres formations, par exemple dissoutes, qui avaient à peu près le même programme, et qui en tout cas représente effectivement la tradition politique qui remonte déjà il y a une vingtaine d'années de la famille Shinawatra, disons une tradition plutôt, je dirais, populiste, modérément progressiste, hein, pas plutôt une tradition populiste, je dirais légèrement à gauche plutôt que de droite. C'est quand même une tendance qui reste certainement très représentée dans les campagnes, en particulier les campagnes très peuplées et très pauvres du nord et du nord-est du pays. Et donc il se vérifie que malgré 5 années d'un régime militaire autoritaire, sinon totalement dictatorial, eh bien les bases de ce mouvement, ce qu'on a aussi assimilé avec celui des chemises rouges à un moment, au moment des grandes luttes politique dans le pays, ce mouvement continue à rester sans doute très bien représenté, voire majoritaire dans le pays. Mais il faut signaler d'emblée que les militaires ont tout prévu et que malgré ce succès de l'opposition, s'il se vérifie, l'opposition n'est pas prête d'exercer la réalité du pouvoir.
Oui, parce que les militaires ont pris le temps de préparer cette victoire annoncée. Ils ont pour cela changé la constitution. Ils ont pris leur marque bien avant les élections.
Oui, on peut dire qu'on a à faire face à une constitution vraiment taillée sur mesure pour gêner au maximum toute possibilité d'alternance politique, hein, et en particulier toute possibilité de retour au pouvoir de la famille Shinawatra et donc de cette tendance populiste modérément progressiste que je mentionnais, puisque il y a plusieurs verrous ont été établis. Je dirais le premier verrou, le principal en fait, celui qui sera probablement rédhibitoire, c'est celui quand même d'une constitution qui, à côté d'une assemblée élue de 500 députés, prévoit un Sénat entièrement nommé par le pouvoir actuellement existant, c'est-à-dire concrètement par l'armée et par le palais, de 250 membres, et c'est la réunion de ces deux assemblées qui va déterminer la forme du gouvernement, qui va choisir le Premier ministre. Donc si on a 250, il suffit de faire le compte, 750 députés et sénateurs ensemble, donc il suffirait en fait que sur cette assemblée de 500 membres, 126 députés votent avec le Sénat qui sera très probablement en faveur du maintien du régime militaire en place, ou en tout cas de quelque chose qui y ressemble, donc simplement un quart du Parlement votant avec le Sénat, et ça signifie quand même que éventuellement jusqu'à 75% de députés d'opposition pourront se trouver complètement circonvenus et empêchés de former le gouvernement. Donc premier verrou qui paraît quand même presque rédhibitoire, sauf Raz-de-Marée lui-même.
Alors justement,
surprenant et imprévu.
Et justement, excusez-moi, donc le raz-de-marée que vous évoquez, vu la forte participation qui est annoncée, on pourrait s'attendre justement à ce qu'il y ait des chiffres favorables au mouvement pro-démocratie qui pourraient remettre en cause tout cela.
Oui, mais enfin, sans doute pas à ce degré-là, parce qu'on a à faire face à une opinion qui malgré tout est fortement divisée. On a une opinion des campagnes, de la petite paysannerie pauvre qui est massivement, qui pour l'homme majoritaire dans le pays, qui est massivement en faveur de ceux qui ont la majorité, de la famille Shinawatra, du parti Petai. Par contre, on a quand même une forte partie de la population, des habitants beaucoup plus privilégiés de Bangkok, les habitants également du sud, assez favorisé sur le plan des matières premières et du tourisme du sud du pays, de la Thaïlande. Ça représente facilement 30 à 40% quand même de la population totale de la Thaïlande, qui ne voteront certainement pas majoritairement pour le parti Peu Thaï et pour l'opposition. Donc on peut penser qu'ils représenteront très vraisemblablement plus d'un quart des députés. Donc a priori, la manœuvre prévue par la Constitution permettant la pérennisation au pouvoir de l'armée risque de se vérifier. D'autant plus qu'il y a deux autres verrous que je mentionnais. D'une part, un article de constitutionnel extrêmement curieux qui prévoit qu'en fait, aucun parti ne peut, quel que soit le nombre de voix, ne peut être assuré d'avoir la majorité des sièges. Donc il y a une sorte de plafond, je n'ose pas dire de plafond vert, qui empêchera les partis d'opposition, quel que soit leur nombre de voix, d'obtenir un nombre de sièges correspondant au nombre de voix, une sorte de proportionnel inversé. Hein. Et puis enfin, le dernier point, c'est quand même que la conjonction du palais et de l'armée, utilisant massivement en particulier un crime de lèse-majesté avec une interprétation très large du crime de lèse-majesté, risque d'invalider un certain nombre de députés, voire, comme ils l'ont fait encore récemment, d'interdire un parti entier qui, donc... à supposer qu'il ait un grand nombre de députés, pourrait se voir tout simplement privé de représentation, de nouvelles élections partielles qui seraient organisées pour éventuellement remplacer des députés un peu trop remuants.
Jean-Louis Margolin, il y a un homme qui a fait sensation en quelque sorte durant cette campagne. Il est jeune, c'est un milliardaire, Thanatorn Juan Grongrongkit. Il est apparu avec un nouveau parti, Future Forward. Apparemment, il a séduit beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes qui ont l'intention de voter. Ils sont près de 7 millions qui ont voté, donc probablement. Est-ce que, selon vous, ce parti a une chance de changer la donne?
C'est un petit peu ça la principale inconnue. On attend quand même beaucoup de savoir quels seraient les résultats de ce parti. Et à supposer qu'il ait des résultats significatifs, un nombre de voix important, en particulier par exemple, on peut penser à l'électorat quand même jeune et assez remuant de l'agglomération de Bangkok, cette ville géante. À ce moment-là, effectivement, on a un groupe politique qui pourrait en fait jouer une sorte de rôle de bascule, enfin d'élément décisif, soit pour renforcer l'opposition qui à ce moment-là pourrait approcher de cette majorité de 75% décisive que je mentionnais tout à l'heure, bon, même si elle a quand même, à mon avis, peu de chances de l'atteindre, ou alors, évidemment, il pourrait peut-être monnayer son appui à un maintien d'une junte au pouvoir, d'une junte militaire au pouvoir, et du général en place qui est son représentant.
Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, oui, Jean-Louis Margolin, on s'achemine, en tout cas, d'après vous, vers un gouvernement de coalition, quoi qu'il arrive, et est-ce que la Thaïlande est prête pour une coalition si aucun parti n'obtient la majorité?
Non, pas quoi qu'il arrive, puisque, comme je le mentionnais, il suffirait que le parti issu de la junte obtienne un quart des sièges à l'Assemblée, et il pourrait, au moins en théorie, exercer seul le pouvoir avec le soutien du Sénat. Mais évidemment, il sera sans doute plus favorable d'essayer d'élargir sa majorité. Il y a quand même jusqu'à 36 candidats à la députation dans certaines circonscriptions, donc certains petits partis pourront sans doute se laisser faire une douce violence et accepter de soutenir le parti au pouvoir, un petit peu quel qu'il soit, moyennant évidemment certaines rémunérations visibles ou invisibles, certaines compensations. On peut dire qu'on a des élections qui ne sont pas pour rien, puisque ce sont les premières depuis fort longtemps, qui marquent sans doute le début de processus de réouverture du régime politique, mais qui ont fort peu de chances quand même d'amener à une inversion en quelque sorte de ce qu'on a connu toutes ces dernières années, c'est-à-dire un pouvoir finalement à peu près inébranlable de cette coalition représentée par les forces militaires et les forces liées au palais et à la monarchie.
Merci beaucoup pour vos explications, Jean-Louis Margolin. Je rappelle que vous êtes historien de l'Asie orientale contemporaine, enseignant à l'université d'Aix-Marseille et que votre dernier livre publié s'appelle « Les Indes et l'Europe, histoire connectée 15e-21e siècle » avec Claude Markowitz. C'est aux éditions Folio Histoire chez Gallimard. Il a été publié en 2015.